premier rendez-vous, Pauline Vrolix.
Une après-midi de personnalité, une première rencontre toujours singulière. Notre première invitée est entrepreneur, sacrée femme d'affaires 2017 par Veuve Clicquot. Allemande d'origine bavaroise, naturalisée suisse, elle crée un réseau de crèches privées multilingues français, anglais, allemand, basé sur un modèle social durable du nom de Little Greenhouse, pour petite maison verte. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires atteint 8,2 millions de francs, avec 4 crèches sur l'arc lémanique plus une à Zurich qui sera inaugurée cet été. Sportive accomplie, elle pratiquait il y a encore peu l'Ironman, des courses de plusieurs dizaines de kilomètres avec natation, cyclisme et marathon. Persévérante, audacieuse, stratège, elle n'a pas hésité à mettre en jeu tous ses biens personnels, plus ceux de son mari, pour se lancer dans son aventure de crèche du futur. Notre deuxième invité est le directeur du musée d'ethnographie de Neuchâtel. Collaborateur scientifique dès 1983, conservateur adjoint en 1992, il devient conservateur en chef en 2006. Formé à la faculté de lettres de l'université de Neuchâtel, le début de sa carrière est rythmé de terrain qui l'emmène du sud de la France à l'île de la Réunion et du pays d'en haut aux Philippines. Ses domaines de prédilection, les psychotropes, l'acculturation, l'anthropologie urbaine et les pratiques rituelles. Chargé de cours aux unis de Berne et de Neuchâtel, c'est finalement la muséographie qui devient le pivot de sa vie. Sa mission, donner des grilles de lecture pour comprendre les sociétés des autres et pour approcher notre propre étrangeté. En avril prochain, il prendra sa retraite, la preuve que tout est impermanent, pour paraphraser le titre de sa nouvelle exposition. Notre première invitée est Barbara Lax, notre deuxième invitée est Marc-Olivier Gonzette. Bienvenue dans Premier Rendez-vous.
De 14h à 15h, Premier Rendez-vous.
Bonjour Marc-Olivier Gonzette.
Bonjour.
Bonjour Barbara Lax.
Bonjour.
Bienvenue à vous deux.
Merci.
On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Racontez-nous, Barbara Lax, un premier rendez-vous qui vous a touché.
Alors, c'était un premier rendez-vous que j'ai eu avec une personne très spéciale en 2011. Les deux, on faisait les cours de Jenny Lem pour savoir comment lancer son entreprise. Et puis, c'est la personne s'appelle Stéphanie Feignot. Elle a juste commencé à avoir l'idée de sa entreprise graphisterie. Et moi, j'avais commencé à avoir l'idée de Little Greenhouse. Et on s'est échangé le email et on s'est rencontré après pour discuter plus de notre projet. En fait, c'était Stéphanie avec sa graphisterie qui a fait vraiment la première naissance, dans quelque sens, de Little Greenhouse, parce que c'est elle qui a créé déjà notre page web et aussi toute notre documentation autour. Et pour moi, je suis quelqu'un de très visuel. C'est très important de regarder, de voir des choses. Et pour moi, c'était vraiment un moment exceptionnel quand j'ai vu la première page web de mon entreprise. Et c'était vraiment ça, pour moi, le premier moment de la naissance de Little Greenhouse.
C'était lui donner une image,
oui.
C'était le mettre
oui,
en dessin, c'est
comme,
ça?
Oui, et c'est comme une émotion aussi, je trouve, sacrée. C'était pour moi tangible, quelque chose à montrer, parce qu'au début, je pouvais rien montrer. Alors, et on s'est accompagnés une à l'autre aussi dans notre aventure de notre start-up. Et puis, chacun soutenait l'autre dans ses aventures.
Une belle histoire d'amitié,
en somme. Oui, exactement.
C'est
alors,
ça.
C'était vraiment très important et ça continue à l'être. Oui.
Ça fait 6 ans maintenant que vous avez lancé votre projet.
Oui.
Vous avez 135 employés, bientôt 150 avec la nouvelle crèche qui va ouvrir à Zurich. Donc c'est des crèches qui sont bio, les enfants sortent, on leur parle en 3 langues. C'est la crèche du futur, quoi.
Oui, absolument. C'est la crèche du futur aussi pour les futures familles. Aussi, un aspect qui est très important pour nous, c'est soutenir les familles modernes dans leur envie de combiner leur vie professionnelle et développer leur carrière avec une vie famille remplie et où ils peuvent vraiment donner leur mieux dans les deux sans finir.
Vous parlez même d'ouvrir vos crèches la nuit.
Oui, au début, on avait parlé de ça. Et entre-temps, maintenant, on propose des babysitting dans les maisons des familles avec des professionnels parce que on voit que c'est quand même bien quand les enfants peuvent être chez eux.
Quand même, hein, pas qu'ils vivent à la crèche uniquement.
Bon, ça serait plus pour des dépannages, mais c'est vrai que si on pourrait choisir entre les deux, je pense pour tout le monde, c'est mieux quand ils ont leur petit lit à eux à la maison.
Donc la Suisse qui est donc en pénurie de crèches, et c'est là aussi que les crèches sont les plus chères d'Europe en fait, en Suisse, les crèches. Enfin voilà. Marc-Olivier Gonzette, un premier rendez-vous qui vous a beaucoup touché.
Alors je vais aller assez loin en arrière. J'avais enfin réussi à dire à mon père que je ne serais pas pasteur, comme j'avais toujours dit quand j'étais plus jeune, parce que mon père était pasteur. Et les enfants, ils veulent faire comme les parents, souvent, comme ça. On a l'impression que le métier est très attractif. Et je lui ai dévoilé vers 15 ans à peu près, 14-15 ans, que je voulais plutôt faire de l'archéologie ou de l'ethnologie. Et alors, il a pris sur lui de me faire rencontrer des professionnels de ces disciplines. Avec l'archéologue, ça s'était pas très bien passé, parce qu'il m'a raconté que c'était finalement pas du tout comme on imaginait dans les histoires, que les archéologies c'était ennuyeux, qu'on grattait, on avait froid, enfin bref, il m'avait pas tellement stimulé, il m'avait aussi dit qu'il y avait pas beaucoup de place. Et puis, alors qu'on se trouvait en Espagne, en vacances, mon père m'a emmené voir alors l'ethnologue, qui avait une petite maison à Puerto de la Selva, un petit village tout près de la frontière. Et j'ai été vraiment frappé par cette personne qui était à la fois qui avait quelque chose à la fois de dur et de très très jovial, de très plein, et qui m'a raconté que c'était difficile, qu'il y avait peu de place en ethnologie, mais que c'était exaltant, et puis que il m'a en fait donné l'impression inverse. Et cette personne, c'était Jean Gabu.
Vous nous rappelez qui c'est ?
Qui eut cru. Alors c'était le directeur du musée d'ethnographie depuis les années 45 jusqu'à ce qu'arrive Jacques Hénard à la fin des années 70.
Hein. Actuel conservateur du musée d'ethnographie de Genève.
Jacques Hénard, donc, il ne l'est plus.
Oui, il a été pendant longtemps, il a incarné longtemps cette institution.
Il a pris trois ans, effectivement, cette institution en charge après le Maine. Et j'arrive ensuite. Donc effectivement, j'avais rencontré très tôt la personne qui eut cru lors de cette rencontre entre lui et moi qu'on allait être si proches, en fait, quelque part dans le temps.
Donc finalement, votre vie à vous, Marc-Olivier Gonzette, elle tourne complètement autour de votre musée, en quelque sorte.
Oui, il faut l'avouer.
Vous êtes une tribu comme ça de collaborateurs. Vous vous suivez, vous vous aimez, vous entraidez beaucoup.
Oui, disons, quelqu'un qui n'a pas fait de l'intérieur l'expérience de l'exposition, du médium exposition, peut peut-être pas tout à fait se rendre compte à quel point c'est exaltant de développer des discours dans l'espace et de développer ce type de discours dans une institution comme le musée d'ethnographie de Neuchâtel, qui a été longtemps réputé pour la grande liberté de ton et également la grande originalité des démarches, tant de Jean Gabu à l'époque que de Jacques. Alors, c'est ce qui m'est arrivé, je suis tombé dedans à la fin des années 70, donc après avoir fait cette rencontre qui m'avait encouragé à la fin des années 60, et je l'ai plus quitté parce que c'est ce que j'ai préféré faire. Mais je suis quand même resté très attaché à la discipline qu'est l'ethnologie.
Vous êtes déjà allé dans un musée d'ethnologie, d'ethnographie, Barbara Lax ?
Non, jamais. Je dois avouer que je connais pas grand chose sur la ethnologie et surtout pas sur le musée de la ethnologie.
Et alors, si vous deviez vendre une exposition en particulier qui a marqué votre carrière, Marc-Olivier Gonzette, une qui, comme ça, synthétise les valeurs de ce musée?
Alors, j'aurais tendance à dire que c'est celle qui est là aujourd'hui, parce que ça permettrait...
Ça s'appelle l'impermanence des choses.
Oui, ça permettrait de venir la visiter. Elle vient de s'ouvrir. Elle raconte beaucoup de choses aussi du passé de l'institution. Elle raconte de manière qui n'est pas coupée de l'émotion. Si vous voulez, vous n'êtes pas simplement en pur intellectualisme quand vous allez dans cette exposition. Mmh. Vous avez des choses qui vous ramènent à vous-même et qui vous permettent de penser à des choses qui vous arrivent à vous, tout en apprenant des choses qui concernent notre équipe. Alors, ça, c'est un peu égoïste, parce que là, je prends la dernière. Une autre expo qui était vraiment extrêmement forte et importante pour nous, c'était une expo qui s'appelait le musée cannibale, que j'ai développé là avec Jacques Hénard, et qui en fait parlait de notre discipline de manière critique, en constatant en fait que nous étions des mangeurs, des dévoreurs de la culture des autres, mais que c'était finalement une des seules manières d'entrer en communication aussi avec l'autre. Donc vous avez dans le cannibalisme, un peu comme dans la Sainte-Seine, à la fois une prédation et une consommation en fait, un rapprochement qui s'appelle la communication.
Et vous, Barbara Lax, vous êtes bavaroise, allemande, naturalisée suisse. Vous vous sentez complètement, faite à la culture romande aujourd'hui. Vous habitez en Romandie. Ça fait quelques temps maintenant que vous développez un réseau de crèches ici. Vous vous sentez romande ?
Et je me sens un petit peu romande. Ma fille est née ici, elle parle parfaitement le vaudois. J'aime bien les expressions vaudoises, par exemple, être déçu dans le bien ou ce genre de choses.
Déçu en bien, ouais.
Oui, c'est très similaire. Certaines choses sont très similaires à la culture de montagne bavaroise d'où je viens. Mais j'ai aussi, bien sûr, mon côté justement bavaroise. Alors, j'aime bien la bière plutôt que le vin blanc, mais j'aime bien aussi le vin blanc. Et je me sens vraiment très à la maison ici. C'est vrai que je m'ai bien installée, et j'aime bien mes voisins et j'aime bien cette culture, mais c'est clair que je suis pas née ici et j'ai des autres mémoires d'enfance.
Alors,
les gens d'ici.
On va parler de tout ça, on va parler aussi finalement encore de vous avec un speed dating, Marc-Olivier Gonzette et Barbara Lax. Marc-Olivier Gonzette, vous avez 2 minutes pour en savoir plus sur Barbara Lax, c'est parti.
Alors la première chose, ce serait, vous venez d'en parler, votre rapport aux images. Vous avez dit que vous étiez visuel.
Oui.
Comment est-ce que vous essayeriez de me dire votre rapport particulier aux images et qu'est-ce que pour vous une image?
Pour moi, je pense que quand on voit des choses, ça peut créer beaucoup de émotions. Une photo ou un film ou des images, pour moi, ça peut être aussi, par exemple, l'aménagement, l'interior design, ou aussi dans la nature, les jardins. Et je trouve qu'il y a beaucoup de messages qui sont portés par les images et je suis très touchée par les images, peut-être plus que par le son.
Mm-hmm. Est-ce que vous êtes joueuse? Est-ce que vous aimez les jeux?
Certains, oui.
Est-ce que vous pouvez expliquer peut-être un rapport particulier à un jeu qui vous fascine?
J'aime beaucoup les jeux stratégiques des cartes, par exemple, où il y a une certaine chance et une certaine stratégie qu'il faut amener. Alors, il y a des jeux de cartes qui viennent de Bavière qui ne sont pas très connus ici, mais j'étais passionnée de les jouer à l'école et puis avec mes parents aussi. Ça, c'était peut-être le jeu que j'aime le plus. Mais tout ce qui est un mélange entre stratégie et puis chance, je trouve très passionnante.
Est-ce que vous trouvez cet aspect-là aussi de jeu dans votre vie professionnelle?
Oui, dans quelque sens, oui, parce que justement, quand on imagine quelque chose comme un nouveau business model, une nouvelle idée, une innovation, il faut aussi avoir un certain plan, c'est une stratégie. Et après, il faut réagir dépendant comment les autres réagissent autour. Et pour moi, c'est parfois, ça devient de plus en plus aussi un jeu et de moins en moins un vrai menace ou... J'ai appris de voir des choses parfois avec une distance comme dans un jeu et j'aime beaucoup ça, oui.
Alors, pour compléter on arrive au bout du chrono, là. Pour compléter le portrait de Barbara Lax, j'ai une devinette pour vous. Quel était son premier métier, à votre avis?
Son premier métier?
Avant d'être cette créatrice d'entreprise de Little Greenhouse,
vous avez parlé de sport, peut-être quelque chose en rapport avec l'enseignement du sport ou l'entraînement.
Je vous laisse le contredire, Barbara Lax.
En fait, alors j'ai étudié génie civil, j'ai un diplôme en génie civil et aussi en méthode numérique, deuxième diplôme, et j'ai travaillé dans la recherche au début, notamment dans la recherche ici à l'EPFL pour le comportement de bois ensemble avec les vers.
D'accord.
Alors, je suis
plutôt chercheuse.
Chercheuse, oui.
D'accord, c'est très bien.
Avec une partie de vos études à Barcelone, et puis
oui.
Vous avez travaillé pour une grande firme américaine qui fait de la construction, notamment.
Oui, exactement, les machines de la construction. J'ai travaillé pendant 12 ans chez Caterpillar, qui est basée juste au Vive, à Genève. Puis j'ai travaillé dans la stratégie là, justement. Alors, j'aime beaucoup la stratégie.
Votre question du jeu était très bonne, je trouve, Marc-Olivier Gonzette. Barbara Lax, c'est votre tour de poser des questions à Marc-Olivier Gonzette. C'est parti, vous avez 2 minutes.
Merci. Alors, Marc-Olivier, je m'intéresse beaucoup au futur. Et récemment, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « Une petite histoire de la humanité » qui parle justement de tout notre développement, de où on vient, le Homo sapiens et tous les autres types d'hommes qui existaient avant. Et je trouvais ça passionnant. Est-ce que vous voyez un lien avec l'ethnologie et les passés et ce développement avec les futures générations? Est-ce que nous, on devrait apprendre de ces histoires d'hommes pour le futur, pour mieux faire peut-être.
Je pense effectivement que l'histoire nous amène énormément d'informations et aussi, pas seulement l'histoire, mais aussi la différence entre les sociétés, les manières différentes de voir la vie sont énormément enrichissantes. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait beaucoup à gagner à comprendre mieux un certain nombre de sociétés et les valeurs qu'elles ont développées pour peut-être améliorer nos outils de compréhension du présent et proposer des alternatives à ce système un peu formaliste qui nous encadre ici en Occident. Il y a un autre élément qui me frappe en rapport avec le futur, c'est toute l'innovation technologique adaptée à l'humain pour en faire une espèce de surhomme. Et là, je pense qu'on a une sorte de piste parce qu'on le sent venir, on sent qu'on commence à être des corps potentiellement en pièces détachées qu'on pourrait améliorer d'une manière ou d'une autre. Et on sent aussi un rapport à la temporalité, à l'éternité qui est en train de changer, à une volonté d'aller plus loin que cet âge de la vie de 80, 90 ans où finalement ensuite on quitte le bateau. Et ça, à la fois, ça me fascine et ça m'inquiète parce que c'est comme si on allait commencer à jouer un peu avec un changement, une surhumanité, si vous voulez. Donc je vois une sorte d'éloignement dans les outils qui nous sont proposés aujourd'hui par rapport à l'image que vous donnez des sociétés chasseurs-cueilleurs ou qui avaient un rapport intime avec la nature et des choses comme ça. On est en train de passer à la surnature, si vous voulez. C'est un peu ce que je perçoit.
En fait, on arrive à la fin de votre chrono. Vous parlez de surhomme, vous en avez peur. Est-ce que vous avez l'impression, Marc-Olivier Gonzette, que justement, nous sommes en train de glisser dans une ère un petit peu de l'homme-machine qui vous angoisse et qui...
Non, je suis pas angoissé. Ça me fascine, ça me fait peur un peu au sens de, si vous voulez, j'ai peur des sociétés inégalitaires. Et je constate que malgré les belles utopies qu'on nous rabat à longueur d'année aux oreilles, notre société devient de plus en plus inégalitaire. Et j'ai peur que ces nouvelles technologies
ne favorisent qu'une partie
de la population, que l'accès aux soins soit également différencié. Vous avez vu que l'accès à Internet va peut-être devenir aussi différencié bientôt. Donc moi, ce qui me fait peur, ce qui m'angoisse vraiment, c'est l'instauration d'un régime inégal.
Très bien, merci pour cette réponse fort intéressante. J'ai une petite devinette pour vous, Barbara Lax, concernant le profil de Marc-Olivier Gonzette. Où est-ce qu'il habite, vous pensez? Vous avez donné un petit indice avant l'émission.
Alors, je sais, c'est dans la région de Neuchâtel.
Exact.
J'imagine peut-être plutôt dans un petit village.
Exact, c'est à Rochefort. Et ça, c'est un point que vous avez en commun. Vous habitez tous les deux dans un presque hameau. Enfin, vous, un vrai hameau.
Oui.
Ça s'appelle comment déjà, Barbara?
Tranche-pied. C'est très important. Je suis vraiment déçue que vous ne le connaissez pas.
Non, mais je rigole. Je ne le connaissais pas. Bon, je suis désolée.
Oui. Non, c'est tout petit, vraiment, mais c'est très joli.
Et il y a un concours complètement fou dans votre région. Ça s'appelle le track pulling.
Le tractor pulling.
Tractor pulling.
En fait, je pense que ça vient de l'États-Unis. C'est des tracteurs qui tirent des poids derrière, et puis le but c'est de tirer au plus loin.
Alors, et c'est absurde en fait, non?
C'est génial, c'est vraiment,
moi
j'adore, oui. Et puis c'est seulement chaque 2 ans, mais j'essaye toujours de faire la pub pour qu'ils fassent ça chaque année. Et c'est vraiment des gens de partout en Suisse, et je pense même de partout en Europe qui viennent avec leur tracteur. Il y a certains que c'est des anciens, des nouveaux, des enfants, c'est incroyable, et puis c'est un événement, j'adore, c'est juste très, très spécial.
Ça vous plairait aussi du tracteur pulling comme ça, Marc-Olivier Gonzette, avec un gros tracteur tirer des choses derrière comme ça?
Mais à Rochefort, j'habite aussi un hameau qui s'appelle Les Grattes, en fait. C'est au-dessus de Rochefort et nous avons des combats de rennes.
Ah, bon, ça, c'est plus classique. Hein.
Oui, mais les combats de rennes dans un pays comme celui de Neuchâtel, c'est pas forcément évident. C'est-à-dire qu'en fait, les paysans de la région se sont pris au jeu et ont des vaches, en fait, en estivage en Valais. Et puis, ils les habituent au combat et ils les font combattre
et
dans
hop,
la région.
Et les rapatrient.
Les rapatrient pour...
Les combats de rennes, c'est des combats de vaches.
C'est des vaches
avec des cornes
voilà, qui ont l'habitude de créer une hiérarchie entre elles, la plus forte s'imposant, okay. Et puis elles le font avec des gestes assez particuliers qui consistent à faire céder. Donc c'était juste pour dire que la campagne nous amène parfois des spectacles tout à fait inattendus. Ouais.
Oui, mais je pense que vous allez devoir inviter Barbara Lex au gratte, voir
les
combats de rennes.
Oui, ça a l'air super intéressant. Voilà. J'adore ces journées. Oui, des choses justement traditionnelles d'une côté ou complètement bizarre de l'autre côté.
Traditionnelle, en tout cas, c'est la bicyclette, mais moins traditionnelle, c'est Queen qui chante la bicyclette sur la première.
Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, 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 bicycle. I want to ride my bicycle. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is
Queen sur la première avec Bicycle Race, la course à bicyclette. Vous êtes à l'écoute de Premier Rendez-vous. Nos invités du jour sont Marc-Olivier Gonzette, directeur du musée d'ethnographie de Neuchâtel, et puis Barbara Lax, femme d'affaires 2017, et puis l'inventrice, l'inventeuse des crèches Little Greenhouse, un concept de crèche novateur. On vient d'écouter Queen, Barbara Lax. C'est un de vos groupes préférés, n'est-ce pas?
Oui, oui, je suis surprise que vous le savez, en fait.
Oui, Facebook donne des informations comme ça, parfois. Et vous êtes une grande sportive aussi, vous avez fait des exploits sportifs. Vous êtes ce genre de femme qui fait de l'Ironman, enfin plutôt de l'Ironwoman. C'est du marathon, de la nage et puis encore justement de la bicyclette, c'est pourquoi on a choisi ce titre pour vous. Vous n'êtes pas un peu folle? Est-ce qu'il faut ça pour se lancer dans l'entrepreneuriat des crèches aujourd'hui en Suisse?
Oui, je pense qu'il faut aimer de faire des choses qu'on ne sait pas forcément si on peut réussir ou pas.
Votre vie un peu en danger d'une certaine manière quand vous êtes lancée dans cette aventure.
Oui, absolument.
Quel était le déclic d'abord?
Il y avait plusieurs déclics. En fait, je pense que mon déclic le plus fort, c'était... que j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec impact pour ma vie, quelque chose de tangible, quelque chose où je pourrais voir les résultats ou qui amène aussi une amélioration dans le monde d'une manière ou d'une autre. Je suis aussi passionnée par le développement durable et j'ai aussi pour ça étudié génie civil parce que vous voyez les résultats. Vous pouvez faire ça d'une manière indépendante, vous avez beaucoup de liberté, vous pouvez aller dans les autres pays. Et quand j'ai travaillé justement pour une grande entreprise, il y avait beaucoup de choses que je pouvais faire, comme voyager, et être avec des gens très gentils, et j'avais beaucoup de liberté quand même de travailler pour mes passions, par exemple le développement durable. Mais ce qui me manque, c'était vraiment de voir le résultat de mon travail comme ça, tout de suite, chaque jour. Et aussi d'avoir un impact dans l'environnement où j'habite, où je suis.
De pouvoir, entre guillemets, vous lever le matin, aller voir sur le terrain qu'effectivement, votre travail porte ses fruits, existe.
C'était très important pour moi et ça m'est manqué. Et ça, c'était vraiment, je pense, la plus grande raison pourquoi j'ai décidé de faire ma propre entreprise. Après, le sujet de ça, après, c'est venu plus tard aussi avec la naissance de ma fille et puis avec plein d'hasards ou peut-être pas autant d'hasards, mais c'est vrai que ça, c'était, je pense, ma plus grande motivation et ce qui m'a donné vraiment cette énergie de savoir, OK, si tu veux faire quelque chose tangible avec un impact, ben, il faut se lancer maintenant ou jamais.
Marc-Olivier Gonzet, vous vous sentez entrepreneur d'une certaine manière ou pas du tout en tant que directeur de musée?
Oui, responsable d'une PME, une petite entreprise qui peut compter jusqu'à 50 à 60 personnes en période d'exposition. Donc, il y a quand même, il y a de la direction d'équipe, il y a une vision, il y a les contraintes personnelles.
Qu'est-ce que vous préférez en fait dans ce rôle-là de directeur de musée?
Alors, j'ai aimé tous les rôles dans le musée. C'est-à-dire, j'ai assez longtemps été surtout lié à la conception des expositions, ce qui m'a laissé une plus grande liberté parce que j'avais moins de contraintes administratives. Et depuis que je suis à la direction, bien, j'ai dû empoigner des problèmes plus directement humains, plus liés à mon équipe, aussi liés à la vision de la rénovation du musée, hein, qu'il fallait lancer, il fallait convaincre les politiques, il fallait
trouver
de l'argent.
Vous sortez de 2 ans de rénovation, là?
Je sors de 10 ans de galère autour de cette question et deux ans, disons, de finish hein, qui nous amène aujourd'hui à un produit fini qui fait le bonheur, en fait, de mon équipe
et si j'ai bien compris, 10 ans de galère, c'est un peu fort, non?
10 ans de galère, mais oui, mais c'est de la galère où on apprend. C'est de la galère, on souffre, puis en même temps, on a du plaisir. Donc, voilà, c'est une boutade, 10 ans de galère. Non, j'ai pris du plaisir à ce que j'ai fait. Mais si vous voulez, c'est quelque chose qu'on conduit en parallèle, parce que le travail normal de muséographie, il faut le faire aussi. On a fait des expositions régulières, on a publié, on a fait de la recherche. Mais là, il y avait un fil conducteur qui nous a mené durant 10 ans pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose de supplémentaire, si vous voulez, qui ajoute une dimension à notre travail.
Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, votre travail est bien compris parce que vous avez été un des premiers musées aussi à expliquer qu'on pouvait mettre justement dans le musée des choses qui sont intangibles, du bruit, par exemple, enfin, etc. Vous avez comme ça révolutionné le concept d'exposition d'une certaine manière. Non.
On a accompagné, je dirais, la transformation des musées, parce que aujourd'hui, vous allez dans un musée, il n'a plus à peu près plus rien à voir avec ce qui se passait il y a une vingtaine d'années. Hein,
mais vous avez comme ça mis la main à la pâte pour que les gens justement osent toucher, se déplacent justement vraiment dans une exposition et puissent regarder dessus, dessous, en bas.
Effectivement, on a osé aller ailleurs. On a aussi beaucoup expliqué, et une des choses que j'ai remarqué, c'est que plus vous expliquez, plus les gens demandent d'explications. Assez souvent, prenez un musée d'art, vous entrez, on vous présente un certain nombre de toiles, peu d'explications, vous êtes presque habitué à cette rhétorique. On m'explique pas forcément comment la chose a été faite, on me la donne à voir. Nous, on fait pas ça. Nous, on va chercher derrière l'objet ce qui pourrait éventuellement raconter une histoire ou ce qui pourrait.
Donc, vous décentrez finalement le spectateur.
Oui, on essaie de lui apporter de l'information, mais plus on lui en donne, plus il en veut. Et en fait, quelque part, on arrive quand même souvent à cette idée qu'on n'en a pas fait assez. Donc c'est à la fois frustrant, mais c'est le jeu. Et le jeu aussi, c'est de considérer que le visiteur, c'est le dernier constructeur de l'exposition. Si on n'a pas une personne qui est d'accord de se confronter avec ce qu'on a fait, avec une grande liberté et aussi avec de la générosité par rapport à ce qu'il voit et ce qu'il fait, alors l'exposition, elle risque d'être ratée. Donc la dernière étape, on compte en fait sur le visiteur.
Sur le visiteur. Et vous, ça vous est arrivé dans votre longue carrière justement d'aller prendre un visiteur au hasard, quelqu'un que vous ne connaissez pas, et puis lui demander son feedback, ou bien vous l'avez pas tellement fait ça?
Pas comme vous le décrivez, mais en revanche, on a énormément de situations dans lesquelles on guide les gens. Enfin, c'est ce qu'on appelle les visites guidées,
oui,
soit
sûr,
lors de brunch, soit de manière tout à fait improvisée, parce qu'on rencontre quelqu'un dans l'espace et puis on donne quelques informations. Et là, on a du feedback. Donc, et là, on a de l'échange.
Mais vous n'êtes pas allé le provoquer comme ça, de manière pour vous rassurer sur les expositions.
On a fait peu d'études de public, c'est peut-être une de nos faiblesses, mais disons, on prend davantage de temps à construire des choses qu'à essayer d'évaluer la manière dont elles sont reçues. Finalement, on se fait aussi confiance, c'est-à-dire on a l'impression qu'il ne faut pas forcément amener du prêt-à-porter, du prêt-à-manger, du prêt-à-penser aux visiteurs, mais qu'il faut aussi un peu le bousculer, et puis finalement, s'il n'est pas content, ce n'est pas grave.
Barbara Lax, vous, dans les crèches que vous avez créées, vous impliquez énormément les familles. Vous regardez comment elles vivent.
Oui.
Et c'est comme ça, vous faites un système de feedback, et c'est comme ça que vous avancez et que vous transformez votre concept.
Oui, exactement. On veut vraiment être très proche de ces familles qui nous accompagnent à nous aussi dans ce voyage. Et puis, d'abord déjà, quand on a ouvert, j'avais aussi ma propre fille dans notre crèche. Et aussi, à cause de ça, j'ai connu plein de familles. On avait les enfants de même âge.
Et vous encore... étiez impliquée émotionnellement, vu que c'était votre chair qui était, entre guillemets, le premier test de votre
Exactement.
Concept.
Hein. Mmh. Exactement. Et aussi, quand on a cet échange-là, avec des familles d'une manière très naturelle, on peut beaucoup mieux comprendre ce qu'ils ont vraiment besoin. Et je suis aussi restée en contact, et j'ai plusieurs vraiment proches amis de ce temps-là. Et j'ai vraiment vu que quand on a cette relation très personnelle avec les familles, on comprend...
Vous pouvez vous améliorer plus vite.
Oui, on peut aller où eux ils veulent aller, et puis nous, on peut développer les solutions pour eux, exactement.
Une des choses les plus dingues de votre crèche, c'est que vous êtes en train de réfléchir à préparer vous-même, par exemple, les petits plats pour toute la famille, les purées, etc. Dans votre crèche, pour ensuite, que quand la famille vienne chercher l'enfant, tout soit prêt, en fait. Ça va jusque-là, en fait.
Oui, c'est délicat, c'est quelqu'un avec qui on a un partenariat, c'est eux qui amènent ça, et puis les parents, ils peuvent...
Mais la crèche du futur, en fait, elle est presque invasive comme ça. Pas invasive, mais disons, elle s'installe, disons, dans le quotidien des familles, comme un membre de la famille.
Ça serait l'idéal, je pense, un vrai partenaire, un vrai ami, un vrai... vraiment de savoir, OK, qu'est-ce qu'ils ont besoin, ces familles modernes.
Et ça coûte combien?
Ça dépend de où on est installé, mais c'est entre 2 500 et 3 000 francs par un plein temps.
Donc c'est plutôt une
par mois.
On va dire que c'est des gens qui ont plutôt les moyens, qui peuvent mettre leurs enfants dans vos crèches.
C'est des familles où les deux travaillent, je dirais. Quand les deux travaillent à un pourcentage important, vous n'avez pas besoin d'avoir un poste très très élevé pour pouvoir se permettre ça.
Très bien. On va s'écouter un petit peu de musique. C'est Christine Salem sur La Première.
De 14h à 15h, premier rendez-vous.
Neva. Ba ma veling eli soukoura dine ma veli wali. Oh 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 sakalabi ma bilawa. Eh sakalabi.
Salem sur la première, chanteuse réunionnaise, une des plus importantes représentantes du Maloya, musique traditionnelle de cette île française. Vous êtes à l'écoute de Premier Rendez-vous, Marc-Olivier Gonzette, directeur du musée d'ethnographie de Neuchâtel, Barbara Lax, femme d'affaires 2017, et puis spécialiste des crèches utopistes, mais qui fonctionnent bien. Voilà, on était donc sur l'île de la Réunion, une île que vous connaissez bien, Marc-Olivier Gonzette.
Oui, j'y ai passé quelques mois à développer en fait une réflexion autour d'un plat qui s'appelle le curry, qui désigne en fait toute forme de ragoût dans laquelle on peut ajouter de la viande, des légumes, et puis toute une série d'épices. Et autour de ce plat, ben se disent pas mal de choses autour de l'identité réunionnaise.
Et qui est comme ça très métissée.
Qui est très métissée avec des populations effectivement qui peuvent venir du sud de l'Inde, de l'Afrique, de l'Asie, et puis évidemment de la métropole.
Et curry qui est proche de curry, c'est ça?
Alors, curry, vraisemblablement signifiant ragoût, a été peut-être à l'origine de l'usage du mot curry par les Anglais, puisqu'en fait, l'épice en question, c'est le masala en Inde, ou masalé à La Réunion.
Ça veut dire mélanger ça, non?
Non, masalé, c'est le mélange d'épices. Oui, c'est un mélange d'épices, mais qui correspond tout à fait à ce qu'on appelle aussi le curry. Uh-huh. Et la coexistence de ces deux termes me fait dire que les Anglais ont pris la partie pour le tout, c'est-à-dire on parlait de l'épice en utilisant le nom du plat.
Et c'est le linguiste qui parle ici, parce que vous êtes aussi linguiste.
Oui, j'avais travaillé effectivement sur un lexique d'un certain Chaudançon là-bas, qui va un peu dans ce sens-là.
Eh bien, nous arrivons à l'étape de cette émission, des objets. Je vous ai demandé de prendre des objets qui vous caractérisent, que vous aimez. On va commencer avec vous, Barbara Lax. Qu'est-ce que vous avez amené?
Alors, j'ai amené des lunettes tout roses.
Des lunettes de Barbie, un peu, hein?
Ouais. Ouais, ça, j'aurais pas pensé à ça, mais en fait, je vous raconte pourquoi je les ai amenées, parce que quand j'étais à l'école, j'avais peut-être 15 ans, 16 ans, et j'aimais toujours beaucoup provoquer, discuter avec nos professeurs. Et un jour, il y a mon professeur de biologie qui m'a dit sérieusement, je dois rester après la classe pour qu'il puisse me parler sérieusement. Je me dis, oulala, qu'est-ce que j'ai de nouveau fait? Bon, j'ai peut-être provoqué un peu. Alors, je suis restée et puis il m'a dit sérieusement, avec une manière très sérieuse. Alors, Barbara, je me fais beaucoup de soucis parce que je pense que tu regardes le monde vraiment par des lunettes roses. Et puis, ça me fait des soucis parce que le monde n'est pas comme toi, tu le vois. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez cette expression en allemand. On dit les lunettes roses, regarder le monde par les lunettes roses. Ça veut dire qu'on voit tout d'une manière très optimiste, positif, oui, idéaliste. Et bah, je me posais vraiment la question pendant plusieurs jours, probablement semaines, parce que ça m'est vraiment resté. Pourquoi c'était mon mauvais et qu'est-ce que je devrais faire pour changer ou. Et je pense justement, c'est rigolo parce que dernièrement j'avais acheté ces lunettes pour faire des photos pour parce qu'on fait toujours une fête pour nos voisins dans notre jardin en printemps quand notre cerisier est en fleurs. Et puis j'avais fait l'invitation avec ces lunettes roses pour toute la famille, on a fait la photo. Et je me dis, mais finalement, maintenant, aujourd'hui, je comprends que peut-être une de mes forces, en fait, c'est d'avoir ces lunettes roses et de regarder parfois les côtés plutôt positifs et se focaliser sur les choses qui fonctionnent ou qui sont peut-être bien et plutôt ça que se focaliser sur les négatifs.
Et c'est certainement peut-être votre capacité à voir un futur plutôt justement positif, porteur de promesses, qui vous permet d'être la femme d'affaires que vous êtes aujourd'hui. 8,2 millions quand même pour votre chaîne de crèche en 6 ans, c'est pas mal, non? Vous êtes fière?
Oui, je suis contente. Et je suis surtout contente parce qu'on a vraiment une très bonne atmosphère, un très bon esprit. J'ai l'impression que les gens qui viennent chez nous, les collaborateurs et les familles, ils sont vraiment heureux. Et ça, c'est très important. Plus que le chiffre, peut-être.
Marc-Olivier Gonzalez.
Oui, je pourrais faire des liens à peu près avec tout ce que madame nous raconte. Et là, les lunettes roses, ça me parle par rapport à notre exposition, donc la permanence des choses. On a un espace qui s'appelle Ambassade, où on essaye de parler des cadeaux diplomatiques et de ce qu'ils signifient dans notre vision du monde et dans la partie cachée aussi de cette vision du monde. Et on a mis un filtre rose aux fenêtres. Donc on est aussi dans cette vision un peu à la fois édulcorée et ironique que portent les lunettes.
Oui, parce que finalement, votre travail, c'est d'oser révéler les grilles de perception du monde.
Oui, l'objet lunette est magnifique pour parler de l'ethnographie, parce qu'effectivement, on essaye toujours d'expliquer aux gens qui voient la ville à travers des lunettes. C'est-à-dire qu'on ne voit
des
pas la réalité, mais on voit c'est ça
habitudes.
Exactement. Et l'idée de lunettes est toute simple. Elle parle à n'importe qui. Et puis après, il s'agit juste de comprendre comment vos lunettes sont fabriquées et puis quels sont les biais qu'elles proposent et quelles sont aussi les améliorations qu'elles peuvent suggérer. L'ours rose, j'aime bien. Il permet de voir une vision très particulière et personnelle.
Quel est l'objet que vous nous avez amené, Marc-Olivier Gonzalez?
Alors, je vous ai amené cette petite statuette. Je vous ai pris un peu au premier degré, c'est un fétiche. Vous m'avez demandé un objet fétiche, j'ai amené un fétiche. C'est en fait l'interprétation d'une statue précolombienne qui avait été prise par Hergé, donc le dessinateur qui a fait Tintin, pour créer un petit fétiche qu'il a mis dans le volume L'oreille cassée. Et il en a fait en fait un fétiche de chasseur de tête et de réducteur de tête, Jivaros. Et ça a été pour moi... Ah oui, je dois préciser que celui que je vous montre a été construit, fabriqué donc par mon graphiste, quelqu'un qui travaille avec moi, qui est un spécialiste de BD, et qu'en fait il a pas simplement copié les fétiches en question, il a pris une partie de chacune des interprétations, il a même encore mis
un
patchwork avec plusieurs.
Il
en
a
fait,
une drôle de tête, votre fétiche. Hein.
Il est bizarre.
Il fait à peu près 25 cm de haut comme ça.
Il est tout à fait particulier. Mais c'est un clin d'œil ironique de la part de mon collègue.
Qu'est-ce que ça représente pour vous alors?
Pour moi, ça représente le rapport que l'imaginaire a entretenu dans ma propre vie entre ma passion qui était l'ethnologie et puis les sources de cette passion. Je me suis toujours demandé mais finalement comment c'est né, et je me suis rendu compte que la lecture de BD comme L'oreille cassée, comme Tintin au Congo ou comme Les sept boules de cristal avait participé d'une certaine forme de fascination pour l'altérité que j'avais ensuite développée à travers mon travail. Mes collègues le savent très bien, et dans l'impermanence des choses, vous avez la version précolombienne du fétiche Arumbaya qui est dans un de nos espaces, par exemple. Donc, j'utilise toujours cette figure même dans mon travail professionnel. Il faut dire aussi que l'ethnologie avait beaucoup à gagner de ses rapports avec la bande dessinée, avec le récit, avec la fiction, avec le roman.
Parce que ça simplifie énormément les choses.
Oui, ça les rend accessibles. C'est une manière de les rendre accessibles, parce que c'est souvent assez compliqué, les théories tenues par des gens qui ont vécu plusieurs années dans une région. Et il fallait des traductions, des guides qui nous amènent à ça. Et je crois que Hergé en a été un. J'ai été frappé d'ailleurs, Tintin au Congo, qui est décrié unanimement comme étant un infâme livre qui se réfère au colonialisme. En fait, il est extrêmement proche d'un film qui a été réalisé dans les années 1928-29 lors d'une mission suisse en Angola, gérée par des Neuchâtelois. Et un certain Marcel Borle a fait un film. Et dans ce film, vous avez énormément de vignettes qui ressemblent à Tintin au Congo. Donc, si vous voulez, il y a une espèce d'imaginaire colonial qui devait être commun à Hergé et à l'équipe de Neuchâtelois qui sont partis en Angola.
Donc c'est des espèces de, comme ça, de perceptions qui sont dans l'histoire et que les gens se forgent.
Dans le film, j'ai presque repéré des cases de la bande dessinée, si vous voulez. Et c'est pas qu'une case, c'est 20. Donc c'est au-delà de la coïncidence. Ça devient véritablement une proximité entre la fiction et une certaine forme de reconstruction coloniale, hein, par l'œil du colon.
Et donc ça, c'est fascinant. Oui. Quelque chose d'autre est fascinant, ce sont les hommes de demain. Et c'est Cyril Mokayesh sur la première.
C'est vrai que l'époque est dure comme la pierre. Elle a le teint blafard et le regard sévère. On avance, on se replie, on se recouche, on s'ennuie en attendant que ça passe ou que ça casse. Allons enfants des jours de pluie, veuillez croire en ce qui nous lie. À nos je t'aime en prose, qu'éclatent comme des roses, quand novembre allume ses bougies. À la noblesse des causes, aux gerbes qu'on dépose, à ce qui nous émeut, à ce qu'on chérit, à ce qui nous émeut, nous remplit. Petit prince d'aujourd'hui, fête les femmes de demain, les femmes de demain. Rebelles au bois d'aujourd'hui, fête les hommes de demain. Les hommes de demain, belles d'aujourd'hui, faites les hommes de demain. Sans haine, sans voile, ni sang sur les mains, faites nos cœurs purs. Pensez les blessures du monde animal, brutal, assassin, qui touche à sa fin. De ne plus croire en rien. Allons enfants des jours tristes, le bonheur ça existe. Et c'est pas égoïste, c'est pas égoïste. Ça s'invente à plusieurs, ça crie amour, ferveur. En se tenant par la taille, en se disant que même nos failles sont magiques. Que nos baisers sont uniques. Petit prince d'aujourd'hui, fête les femmes de demain, les femmes de demain. Rebelles au bois d'aujourd'hui, fête les hommes de demain, les hommes de demain. Petit prince d'aujourd'hui, femme de demain. Profitez des jardins d'enfance, des sourires qui inspirent confiance. Du haut de vos 10 ans, vos 3 pommes, l'avenir est un géant en bonhomme. Futur héros des grandes quêtes. Et si la suite, et si la suite était une fête. Petit prince d'aujourd'hui, les femmes de demain, les femmes de demain. Rebelles au bois d'aujourd'hui, fête les hommes de demain, les hommes de demain. C'est vrai que l'époque est dure comme la pierre, elle a le teint blafard et le regard sévère. On avance, on se replie, on se recouche, on s'ennuie, on attend, ça passe ou ça casse. Allons enfants des jours de pluie, veuillez croire en ce qui nous lie. À nos jeunes aimants roses qui éclatent comme des roses, quand Maria épouse l'espoir. À la noblesse des causes, aux métamorphoses, à ce qui nous émeut, aux héros d'un soir, à ce qui nous émeut, nos victoires.
Cyril Mokayesh sur la première, les hommes de demain. Vous êtes à l'écoute de Premier Rendez-vous, nos invités du jour, Barbara Lax, fondatrice, créatrice, femme d'affaires, Little Greenhouse, votre concept de crèche, et puis Marc-Olivier Gonzette, directeur du musée d'ethnographie de Neuchâtel. Nous arrivons à l'étape de cette émission qui s'appelle le qui a dit que. Vous avez donné des phrases à la presse, et je vais vous faire deviner qui a dit quoi. Il pensait que je voulais simplement m'occuper de ma fille. Qui a dit ça?
C'est pas moi.
C'était moi, oui.
C'était dans le temps du 12 février, et pourquoi?
Est-ce que vous pouvez juste répéter la phrase parce que
il pensait que je voulais simplement m'occuper de ma fille.
En fait, c'était dans le contexte où quand j'ai quitté Caterpillar, quand en fait j'ai parlé de mon entreprise ou de mon idée, et justement ils ont rigolé ou souri.
Certains ont un peu moqué
de vous.
Pas tous,
bien sûr. Oui, pas tous, bien sûr. Il y a des gens qui m'ont fortement encouragé, mais il y avait pas mal de gens, surtout de.
Et aujourd'hui, vous leur dites quoi à ces hommes qui se sont un peu moqués de vous parce que vous vouliez faire un concept, voilà, qui a l'air de beaucoup plaire d'ailleurs à la population suisse aujourd'hui.
Oui, je pense qu'ils ont vu eux-mêmes aussi qu'on peut réussir aussi dehors de cette grande institution et cette grande marque qui nous porte, qu'on peut créer notre propre marque et notre propre identité.
Est-ce que vous prenez plaisir un petit peu à la revanche ou pas tellement? Ou est-ce que vous n'êtes pas ce genre de personne?
Je pense dans ce contexte, oui, je suis quelqu'un très compétitif aussi. Alors, revanche, mais ça me fait plaisir quand même de qu'ils voient ça. Ouais. Je pense qu'ils ont vu, alors ça me fait plaisir.
Vous avez un beau sourire, Barbara Lacks. Phrase suivante. C'était toujours pour moi la région de rêve. Qui a dit ça?
Je pense moi aussi.
Oui, c'est
ça,
vous
c'était
aussi.
La Suisse. Je pense parce que justement, j'aime beaucoup la montagne et les lacs. Et j'adore ici, enfin, je viens de la montagne et des lacs, mais ici, il y a aussi l'internationalité. Et en plus de ça, aussi, cet climat, enfin, pour moi, très chaud, presque méditerranéen. Alors, c'est vrai que c'est une région de rêve pour moi ici, toujours.
Et vous aimez aujourd'hui. La Suisse, elle vous le rend bien. Phrase suivante. Je ne suis pas condamnée à cloner une démarche.
Alors, c'est assez moi, ça.
Oui, c'est vous. C'était dans l'impartial du 24 février 2006.
2006, oui. Alors, ça, c'était en commentaire sur la délicate succession par rapport à Jacques Hénard, puisque j'avais travaillé avec lui de très nombreuses années.
Et qu'il fallait tuer le père.
Alors, si vous voulez, c'est ce qui était attendu de l'extérieur, c'est que je tue le père, je change tout, etc. Alors, j'avais aucune raison de le faire puisque j'avais intimement participé à la transformation du musée dans un sens qui nous était commun. Donc, j'ai expliqué là que j'étais pas condamné à cloner, c'est-à-dire à faire à l'identique, mais pour expliquer que quand même, j'allais rester dans la même ligne, avec la même vision de l'ethnographie.
Aujourd'hui, vous arrivez à la fin de votre carrière. Vous allez rentrer en retraite, si j'ose dire, à partir d'avril. Vous léguez votre musée à deux collaborateurs de longue date. Comment vous vous sentez?
Je me sens très serein par rapport à cette succession. Elle est originale, c'est un duo. C'est les personnes que j'avais nommées lorsque j'ai repris le musée à ma place, si vous voulez. C'est-à-dire je bénéficiais d'un 100% que je pouvais confier à l'extérieur. C'est des gens imaginatifs, doués, qui ont aussi des cordes à leur arc du côté de la musicologie et du côté de l'anthropologie visuelle pour l'un et l'autre. Donc, je pense que le musée en très bonne main. Donc, si vous voulez, ça clôt un peu une sorte de boucle.
Vous avez peur de la retraite ou pas du tout?
Pas du tout. C'est les autres qui m'amènent parfois cette impression qu'ils ont peur pour moi, mais de mon côté, je suis parfaitement serein.
Qu'est-ce que vous allez faire?
Je sais que je vais
vous
faire
avez mis le projet.
Des tas de choses que je n'ai pas eu forcément le temps de faire, ou alors que je vais continuer à faire avec plaisir. Et puis j'aurai plus de temps aussi pour réfléchir, écrire, jouer aussi, puisque je suis aussi joueur, lire et voyager.
Marc-Olivier Gonzette, votre exposition, l'impermanence des choses, est-ce qu'elle est impermanente ou elle est permanente, cette exposition au Musée d'ethnographie de Neuchâtel?
On a vraiment joué le jeu de l'impermanence aussi dans le calibre ou dans la formule, puisque l'idée c'est que toutes les pièces présentées, il y en a 9, sont indépendantes. Enfin, il y en a 2 qui sont connectées, mais disons les 8 espaces sont indépendants. Donc, on pourrait transformer des espaces sans renoncer à l'exposition. Et je crois que mes collègues vont le faire pendant 1 ou 2 années. Et puis ensuite, je pense que...
Et ça va continuer.
Elle va continuer en changeant, voilà, cette expo.
Merci beaucoup. De votre côté, Barbara Lacks, eh bien, vos actualités diverses, vos crèches se développent, etc. On vous retrouve lundi matin dans les matinales de l'information. Oui. Ce sera entre 5h et 6h30 du matin pour ceux qui sont intéressés à entendre un peu plus de vos crèches et de vos démarches. Merci beaucoup d'être venu faire votre premier rendez-vous sur la première. J'espère que ça vous a plu.
Oui, c'était super. Merci beaucoup. Et je suis curieuse maintenant à aller à Neuchâtel dans le midi.
J'espère que vous d'accueillir et avec plaisir.
Avec beaucoup de plaisir.
Merci beaucoup. Lucas Torrent est arrivé dans ce studio, bonjour.
Bonjour.
Quel est le menu à l'abordage?
Vendredi, on suit des globetrotteurs et aujourd'hui, on a une nouvelle globetrotteuse qui va bientôt partir et qui pense qu'il y a de la joie absolument partout dans le monde.
Ben ça, c'est un beau programme. Bah oui, il y en a de la joie, notamment sur la première. Il me reste à remercier Marilyn Regard, notre assistante de production. Aujourd'hui en régie, c'est Alexandre Davoine. La programmation musicale, c'est Jean-Baptiste Proumance. Si vous avez des invités à nous proposer, rdv@rts.ch. Pour le moment, il est 15h sur la première. Bon après-midi à vous.